Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossuma, voici le sommaire. Élection 2023 en RDC. Certains candidats à la présidentielle reconnaissent déjà la victoire de Félix Tshisekedi et l'en félicitent, ce à la suite des tendances des résultats publiés par la CENI. C'est le cas de Constant Mutamba, Noël Tchiani et Tony Cassius Bolamba. Les premiers contingents de la force régionale de la SADC sont déjà à Goma depuis mercredi soir. C'est à la suite des conclusions de la réunion du comité ministériel des pays de l'Afrique australe, réuni le 3 novembre dernier à Luanda. Ces contingents sont venus avec un mandat offensif, différemment de la force régionale de l'EAC, indiquent certaines sources. Et puis, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections dit avoir déployé plus de 275 observateurs lors des élections du 20 décembre. Le coordonnateur de cette structure encourage les parties prenantes à ce processus électoral à une médiation pour éviter des crises post-électorales. Luc Loutala est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Certains candidats à la présidentielle reconnaissent déjà la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi et l'en félicitent à la suite des tendances des résultats publiés par la CENI. C'est le cas de Constant Mutamba qui a publié sur son compte X, ancien Twitter, je le cite, « Avec plus de 10 millions de voix issues des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger Tshisekedi. Ainsi, je le félicite pour sa brillante réélection et lui souhaite plein succès pour son deuxième quinquennat. Vive la démocratie. » Fin de citation. Alain Rong.
De son côté, le candidat Noël Tchiani, qui s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi, a déclaré que les résultats fournis par la CENI reflètent la vérité des urnes et d'ajouter que Félix Tshisekedi a gagné l'élection lorsque l'on suit les tendances publiées par la CENI. Noël Tchiani félicite aussi le président sortant et lui souhaite un fructueux second mandat. Un autre candidat a publié aussi sur son compte X ancien Twitter sa déclaration intitulée « Reconnaissance de la réélection du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023. Tony Cassius Bolamba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, écrit que sur les 26 candidats, les résultats proclamés par la CENI n'ont pas été en sa faveur. D'après les résultats provenant de la CENI, entre les votations reçues par le candidat numéro 20, le président de la République sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les miennes, ainsi que celles des autres candidats, l'écart est énorme et irrattrapable, écrit-il. En toute humilité, dit-il, il félicite le candidat numéro 20 pour sa réélection en attendant la confirmation définitive des résultats par la Cour constitutionnelle, écrit Tony Bolamba. Rappelons que plusieurs opposants continuent de rejeter ces tendances des résultats publiées par la CENI.
Et à l'approche de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier, le gouverneur du Haut-Katanga prend langue avec les responsables des plusieurs structures. Objectif, sensibiliser les uns et les autres pour que la paix et la cohabitation règnent avant, pendant et après la publication des résultats. Les partis concernés se sont engagés à répercuter le même message dans leurs communautés respectives pour qu'aucun acte de violence ne soit enregistré. Jean Gando.
L'appel de Jacques Yaboula concerne tout le monde, partant des membres des associations socioculturelles, passant par ceux de partis politiques et de la société civile. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, la paix et le vivre ensemble doivent être sauvegardés, et donc les élections ne doivent pas diviser les communautés. Voilà pourquoi ces différents interlocuteurs ont, après la rencontre, lancé les messages à leurs communautés respectives, les invitant à attendre dans la sérénité la publication des résultats de l'élection présidentielle. C'est ainsi que les membres des associations socioculturelles ont été convaincus à sensibiliser les leurs pour qu'ils affichent un comportement digne avant, pendant et après la publication des résultats. La société civile et les membres des partis politiques ont reçu la même mission. Ainsi, d'après ces deux dernières composantes, ceux qui voudront se réjouir pour la victoire de leur candidat devraient éviter tout triomphalisme et tout comportement qui serait de nature à mettre mal à l'aise les autres. Toutes les communautés doivent vivre en harmonie sans porter atteinte aux us et coutumes des uns et des autres. Bref, tout devrait se passer dans l'ordre et le respect des institutions ainsi que des autorités légalement établies. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi condamne les messages distillés dans les réseaux sociaux appelant à vandaliser les paroisses. Pour cela, il invite les autorités à sécuriser aussi bien les lieux de culte que les fidèles. Monseigneur Fulgence Moutebala fait savoir dans un communiqué qu'il a rendu public récemment. Par la même occasion, il invite les fidèles à être prudents et vigilants pendant cette période qu'il qualifie d'incertitude. Rendons-nous au Nord Kivu. Une dizaine d'acteurs politiques, activistes des droits de l'homme et membres des mouvements citoyens de la ville de Beni ont été sensibilisés ce jeudi à la prévention des violences post-électorales. C'était au cours d'un café politique organisé par l'ONG Jeunes Patriotes Consolidateurs de la Paix avec l'appui financier de la section des affaires politiques de la MONUSCO Beni. Objectif, prévenir d'éventuelles violences qui pourraient découler de la proclamation des résultats électoraux. André Kitenge.
Une douzaine de personnes issues des organisations de la société civile, des médias et des partis politiques ont pris part à cette journée de sensibilisation à la prévention des violences post-électorales. Pour les organisateurs, il était question de sensibiliser les participants aux notions des seuils et des quotients électoraux afin de prévenir la mauvaise interprétation des résultats qui pourraient occasionner des violences. Benjamin Assimoni, coordonnateur de l'ONG Jeunes Patriotes Consolidateurs de la PJPCP.
Après la proclamation des résultats, il peut y avoir effectivement des cas de violence, des manipulations de l'opinion afin de dire non aux résultats donnés par la CENI. Il fallait que la CENI vienne nous expliquer à un nombre réduit pour qu'en avance nous ayons une information claire. Comment ça se passe pour attribuer un siège à un candidat?
Pour la plupart des participants, les explications fournies par la CENI qui a été invitée à cette activité leur ont permis de comprendre comment sont calculés le seuil et le quotient électoral. C'est le cas de Sylvie Mouiro, activiste des droits de l'homme.
On m'a appris comment faire les calculs des quotients électoraux ainsi que des seuils. Moi, je viens de connaître la vérité, mais il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment faire les calculs de ces quotients électoraux ainsi que des seuils.
André Kitenge, Beni Radio Okapi.
De son côté, le Parlement des jeunes de l'Ituri invite les jeunes de cette province à éviter tout acte de manipulation des politiciens visant à troubler l'ordre public après la publication des résultats des élections. Selon cette structure, il faut préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, gage du développement en Ituri, meurtri par l'activisme des groupes armés. Cet appel a été lancé au cours d'un point de presse ce vendredi à Bunia. Le président de cette structure dénonce des incidents et irrégularités observés dans certains bureaux de vote. Abassi est au micro de Ezekiel Mouzalia.
Certains jeunes ont été privés de leurs droits civiques, les non-affichages des noms de plusieurs jeunes, non-accessibilité dans certaines zones suite à l'insécurité. Le Parlement des jeunes de la province de l'Ituri appelle la jeunesse à la retenue et de s'abstenir de tout acte de violence, mais aussi de dénoncer toute personne malveillante qui voudra créer les troubles pendant cette période où l'attention est orientée à la proclamation des résultats. L'heure est à la réflexion pour la stabilité, cohésion et émergence de cette partie de la République démocratique du Congo. Une occasion également pour le Parlement des jeunes de demander aux candidats non satisfaits par les verdicts de la CENI de saisir les juridictions compétentes que d'appeler les peuples ou les jeunes à la destruction de ce que nous avions construit ensemble, car l'Ituri doit se retrouver au concert de la nation.
Je vous le disais en titre, crise sécuritaire à l'est de la RDC. Les premiers contingents de la force régionale de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe, déjà à Goma depuis mercredi dans la soirée, une information confirmée par le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel Njike Kaiko, la SADC avait annoncé le déploiement de ses troupes au Nord Kivu, concomitamment aux conclusions d'une réunion du comité ministériel des pays de l'Afrique australe qui s'était réunie le vendredi 3 novembre dernier à Luanda en Angola. Bernardine Diambou nous en dit plus.
Cette équipe d'avance est composée de militaires, hommes et femmes sud-africains. Leur nombre n'est pas précisé, mais ils seraient venus avec un mandat offensif différemment de la force régionale de l'East African Community, rapportent certaines sources. Difficile toutefois de les confirmer, car les sources militaires des FARDC, moins encore celles de la SADC, ne se sont pas prononcées quant à ces. Les déploiements de ces contingents sud-africains sur les territoires congolais est consécutif au non-renouvellement du mandat de l'EAC qui a pris fin le 8 décembre dernier sur demande du gouvernement congolais. Il s'est dénoté que la SADC avait déjà déployé ses premiers officiers de commandement à Goma il y a quelques jours. C'est précisément à la date convenue en exécution de l'accord signé le 17 novembre dernier avec la RDC, et le déploiement de la force de la SADC se fera progressivement, a précisé le porte-parole militaire du gouverneur de province. Pour rappel, les derniers soldats kenyans de la force régionale de l'EAC ont quitté le Nord Kivu jeudi dernier pour Nairobi, achevant ainsi totalement leur retrait du territoire congolais. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, précisément à Beni. À quelques jours de la fin de l'année, quelques habitants dressent le bilan de ce qu'a été 2023, notamment sur le plan sécuritaire et social. Pour les uns, le tableau est sombre, avec des multiples attaques des rebelles des EDF avec mort d'hommes. Pour d'autres, c'est un bilan mitigé. Les avis des uns et des autres, c'est dans cet élément réalisé dans les rues de Beni par André Kitenge.
Le bilan sécuritaire dans la ville de Beni, je n'ai pas vraiment un bilan dressé. Si seulement on peut évaluer le gouvernement par rapport à la sécurité dans la ville de Beni, je pense que c'est la ville la plus insécurisée de toute la République. On a instauré l'état de siège, mais l'état de siège n'a pas porté de fruits palpables. Curieusement, la situation avant l'état de siège, elle est devenue pire pendant l'état de siège. Donc la situation sécuritaire, elle est vraiment dramatique.
Pour 2023, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts et cela ne nous a pas vraiment donner le goût d'évoluer, soit d'avancer, ou soit de faire le développement de notre milieu ici à Beni.
Chez nous, à l'Est, c'est toujours des guerres récurrentes, les incursions de l'élément de Fenalu qui écume la région.
2023 était surchauffé par des tueries. Nous ne voulons pas que ça se répète à la 2024.
Sur le plan sécuritaire, l'année 2023 par rapport auparavant, plus ou moins, puisque les années écoulées là, les beaux jours n'étaient que de raconter les morts.
Au Sud Kivu, un festival interculturel pour la paix dans la région des Grands Lacs a réuni hier une centaine de jeunes innovateurs congolais et burundais dans la ville d'Uvira. Les activités culturelles organisées à l'Institut Stella Maris Mwanga d'Uvira ont porté sur la musique, le théâtre, l'humour, le slam, ainsi que sur la sensibilisation sur la paix autour du thème « L'interculturalité pour la paix en milieu universitaire ». Fiston Goma.
Hippolyte Bakari est un humoriste réputé au niveau sous-régional. Retenu récemment parmi les 10 premiers humoristes congolais dans le festival Montreux, ce jeune congolais d'Uvira explique sa compréhension de la paix devant les publics jeunes réunis dans la cour de l'Institut Mwanga.
La paix, c'est une ambition pour tout le monde, mais la paix n'est pas là. C'est partiel pour nous, les jeunes d'Uvira. Parce qu'à chaque fois, on attend toujours des tensions. Telle personne a été tuée, telle personne a été massacrée. Tu ne peux pas avoir assez d'argent que l'autre. Il y a toutes ces choses-là. Alors ça fait à ce qu'il y ait l'instabilité. Mais la paix, tout le monde a envie de la paix. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de jeunes de mon âge qui sont sortis, qui sont partis ailleurs et qui ne veulent plus revenir. Parce qu'à chaque fois que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est les coups de feu ont été entendus dans tel quartier, autre quartier. Donc nous tous ici, nous avons besoin et nous envions la paix.
À côté de lui, d'autres jeunes congolais font la poésie et la musique pour la paix. Le festival interculturel pour la paix dans la région des Grands Lacs connaît la participation des jeunes burundais venus de Bujumbura. Ce dernier s'investit dans l'entrepreneuriat. Sur leur étalage, on pouvait observer des objets d'art fabriqués par ces jeunes et qui leur font beaucoup d'argent au festival comme à Bujumbura. Mademoiselle Ervine Echimwe.
Le message aux jeunes, c'est de les inciter à travailler. Quand une jeune est autonome, la paix dans la région aussi s'est réconsolidée.
Ce festival s'inscrit dans le cadre du projet Vijana Tungane Kwadili Amani.
Retour au Nord Kivu, une coalition d'une ONG, d'une dizaine d'ONG locales de protection de l'environnement, du foncier et des droits humains dénonce l'implication de certains éléments de la force navale dans la pêche illicite sur le lac Édouard. Dans une correspondance adressée hier au gouverneur militaire du Nord Kivu, cette coalition a exprimé ses vives préoccupations au sujet de ce phénomène qu'elle qualifie de crime environnemental. Bernardine Diambo.
Dans une copie de cette correspondance parvenue hier jeudi à la Radio Okapi, ces ONG locales, parmi lesquelles l'IDP, Innovation pour le Développement et la Protection de l'Environnement, cite en particulier au moins 5 officiers de la force navale déployée au lac Édouard. Dans les pêcheries où ils opèrent, ces officiers auraient organisé des réseaux de pêcheurs clandestins avec lesquels ils collaboreraient pour des activités illicites de pêche en violation de toutes les règles. Ce qui, pour ces acteurs de la société civile, menace et détruit les écosystèmes du lac Édouard et ses ressources halieutiques. Ces crimes environnementaux menacent aussi les moyens de subsistance des communautés locales, ajoutent ces acteurs. Ces derniers recommandent, entre autres gouverneurs militaires du Nord Kivu, de stopper ces activités, de diligenter une enquête à ce sujet pour que des actions disciplinaires soient arrêtées à l'égard de ces coupables et leurs complices. Cette coalition propose en plus au gouverneur de procéder à des rotations par des relèves régulières des commandants et des militaires affectés dans cette zone écologiquement fragile du parc national de Virunga. Tous nos efforts d'obtenir la réaction du commandant du 33e groupement naval à ce sujet sont restés vains. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Zambie. Les autorités zambiennes ont annoncé ce jeudi un renforcement de la campagne sanitaire de lutte contre le choléra, une maladie en expansion depuis octobre et qui a déjà causé près d'une centaine de morts cette année dans ce pays. 5 décès et 111 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures, du fait notamment des fortes pluies qui accélèrent la transmission de la maladie bactérienne à travers l'eau et la nourriture infectée, a précisé la ministre de la Santé. Il s'agit du total quotidien le plus élevé en 2023. Il y a eu 93 décès cette année dus à cette infection diarrhéique aiguë, la plupart depuis octobre, selon l'Institut national de santé publique.
L'invité.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections CIMOCEL affirme avoir déployé plus de 275 observateurs lors des élections générales à travers le pays. Invité de Radio Capi, le coordonnateur de cette structure, Luc Loutala, explique que le braquage des kits électoraux lors de ces scrutins fragilise la crédibilité de la CENI. Il encourage cependant les parties prenantes à ce processus électoral à une médiation pour éviter des crises post-électorales. Luc Loutala répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Luc Loutala.
Bonjour Monsieur Blaise Ndongala.
La synergie des missions d'observation citoyenne des élections observe les élections générales de plus près à travers ces observateurs déployés dans les pays. Quelle analyse faites-vous du processus électoral à quelques jours de la publication des résultats provisoires?
Il faut dire que le processus électoral a connu plusieurs étapes. Il faut partir de l'adoption de la loi organique de la CENI, de la mise en place de l'équipe de la CENI, la loi électorale, le travail de la CENI elle-même. Il faut observer que sur l'ensemble du processus, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu des contestations depuis le début jusqu'à la fin. Les parties prenantes sont divisées sur des camps de suspicion. Elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord ni sur la CENI ni sur le processus électoral. Et ce qui est en train d'arriver aussi sur les résultats. Donc on est manifestement sur un processus électoral qui devait être celui de la consolidation, mais malheureusement, c'est un processus électoral de la plus grande destruction du consensus national.
Quand vous parlez de la consolidation, qu'est-ce que vous voulez entendre par là?
La consolidation, on sait que tous les trois processus passés, il y a eu des contestations après les élections. L'évaluation de ces trois processus avait laissé des défis qu'il fallait combler. Et ces défis étaient des défis de qualité. Il fallait avoir des processus, des opérations qui soient gérées avec plus de transparence, plus d'inclusion, plus de participation des parties prenantes. Mais en même temps, il fallait de l'autre côté aller sur la réalisation de ce qu'on a appelé les arriérés électoraux. Il faut remarquer que depuis 2006, les élections ne se tiennent qu'au niveau présidentiel, législatif national, législatif provincial et sénatorial, et que on a tout le reste qui vient, conseillers municipaux, conseillers territoriaux, et tout ce qui vient par la suite. Et donc, la consolidation de la démocratie devait donc viser deux choses. Premièrement, avoir un processus électoral plus inclusif, plus crédible, plus accepté par les parties prenantes, et d'autre part, avoir un processus électoral plus total.
Vous demandez à la CENI d'utiliser des protections adaptées concernant les technologies. Pourquoi?
Parce qu'il est constaté que des machines sont détenues par des particuliers. On assiste plus ou moins à un vote parallèle, dans le sens que des particuliers détiennent des machines à voter, détiennent des matériaux sensibles comme les cartes de vote, les bulletins de vote et tout le reste. Et donc, ils opèrent les votes. On a plus ou moins l'impression d'avoir affaire à un braquage du matériel de la CENI, à la violation de la sécurité. Et donc, pour nous, nous avons soulevé auprès de la CENI des questions du genre, comment expliquer que le matériel qui appartient à la CENI puisse se trouver entre des mains des particuliers? Donc, ça, c'est un. Des deux, comment expliquer que ces particuliers ont pu avoir? Est-ce que c'est une défaillance du fournisseur? Ou alors, c'est une défaillance au niveau interne de la CENI. Et donc, nous, notre démarche a été d'essayer d'approcher la CENI pour comprendre comment on pouvait avoir une telle défaillance dans le système qui fragilise complètement la CENI dans son effort de proclamer des résultats crédibles.
Monsieur le coordonnateur, la CENI a adopté la publication partielle des résultats. Quel est votre avis par rapport à cette procédure?
Le plus important n'est pas la procédure, mais le plus important c'est le ressenti des parties prenantes, l'acceptation des résultats par les parties prenantes.
Quelles sont alors les recommandations de la CIMOCEL à toutes les parties prenantes à ce stade du processus électoral?
La CIMOCEL a toujours dit qu'on est dans une sorte de processus électoral piégé et que nous sommes en train d'aller vers une situation post-électorale de contestation des résultats et qu'on sort, ce qui ne va pas vraiment favoriser le développement, ça ne va pas profiter au pays. Et donc la CIMOCEL a toujours été du camp de l'intérêt national pour appeler les parties prenantes à réaliser que nous sommes piégés et au lieu de déchirer le pays, il est important de bâtir des ponts pour maintenant essayer peut-être d'aller vers une médiation donc, et que l'on sache les difficultés qui existent, comment on va les résoudre.
Une médiation fait aussi attendre un dialogue.
Donc quand il y a une médiation et que les gens se parlent, ça voudrait dire dialogue, que les gens doivent se parler.
Monsieur Luc Loutala, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup.
Le coordonnateur de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL, répondait aux questions de Blaise Ndongala-Mayanda. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Rong Mouchinj, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.